Préparez-vous à cœur à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous, préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous.
Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie.
C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, Amen. L'heure de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Connectez-vous toujours très 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 nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. L'air de la vérité, c'est aussi votre émission de la solution. Ah, vous tous vos problèmes, la solution se trouve uniquement en Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Vous ne vous êtes pas trompés, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez suivi, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission L'Aide de la Vérité. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce merveilleux privilège d'honorer ce énième rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Où que vous soyez, recevez tous nos sincères, chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, mesdames et messieurs, je demeure toujours votre humble serviteur. Bien entendu, le Seigneur Jésus, l'admirable conseiller, également au total contrôle de toutes choses, avec toujours son œil très très attentif et très très vigilant sur tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et rassurez-vous, vous avez vraiment très très bien fait d'être à l'écoute, parce que un instant, une heure, dans les parvis du Seigneur, dans la présence du Seigneur, vaut mieux que mille ailleurs. Nous allons tout simplement continuer à nous intéresser à certaines questions et essayer de les répondre à la lumière des Saintes Écritures, bien entendu, la Bible. Je tiens à préciser que toutes les émissions passées concernant tous les sujets, même toutes les questions qui ont été déjà répondues, que ce soit concernant le baptême, l'huile d'onction, comment reconnaître une bonne église et ainsi de suite, Sachez que vous pouvez entrer en contact avec nous si vous avez besoin de ces émissions passées, ou bien vous pouvez les télécharger gratuitement sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, tout cela c'est en un seul mot. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez gratuitement, que ce soit en brochure, en audio et même en vidéo. Et d'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous pouvez également visionner et télécharger les vidéos sur YouTube. Mesdames et messieurs, nous allons, comme promis, nous intéresser une fois de plus aux questions des multitudes. Et la question qui va nous intéresser directement, c'est à savoir qu'est-ce que c'est que le parler en langue. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? C'est une question très très pertinente, étant donné que ce sujet fait couler beaucoup d'encre dans beaucoup de milieux religieux. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, sois béni pour ce moment. Sois béni pour ton souffle de vie et pour toutes tes multiples grâces qui nous accompagnent jusqu'à cette heure-ci. Prends également le total contrôle de toutes choses dans les moindres détails et laisse qu'en tout et pour tout ton nom se soit glorifié. Merci de disposer toutes choses, de disposer ces multitudes qui sont à l'écoute. Merci de bénir ta parole et que les honneurs, la louange, l'adoration, les acclamations te reviennent. À toi et rien qu'à toi seul, maintenant et pour toujours. Amen. Je disais tantôt que nous allons nous intéresser à cette question. Qu'est-ce que le parler en langue? Le parler en langue. Je tiens déjà à préciser que dans les Saintes Écritures, il y a deux promesses de parler en langue. Vous êtes invités, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs en Christ, à avoir un stylo pour pouvoir noter tous ces versets bibliques. Après, vous allez prendre tout votre temps de les lire et de les vérifier. Je disais tantôt qu'il y a deux promesses de parler en langue dans les Saintes Écritures, et c'est ce que beaucoup ne savent déjà pas. Et c'est important de le souligner d'emblée, parce que tant qu'on n'arrive pas à faire la différence entre les deux promesses de parler en langue, il y aura certainement confusion. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Voilà une promesse de langue faite par le Seigneur Jésus. Il dit à ses disciples, à tous ceux-là qui vont croire en lui, que non seulement ils vont chasser les démons, ils parleront aussi des nouvelles langues. Beaucoup connaissent uniquement cette portion de Saintes Écritures. Beaucoup ignorent qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne fasse cette promesse, Dieu avait déjà fait une promesse concernant les langues dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul va nous dire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 21. Voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 21. Il est écrit. Il est écrit dans la loi. C'est la Bible qui dit. Il est écrit dans la loi. C'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils n'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Amen. Nous voyons ici la Bible reprend une promesse et en même temps une prophétie concernant les langues. Et cette promesse se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, les versets 11 et 12. Ésaïe 28, le verset 11 et 12. Donc, dans l'Ancien Testament même, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, le Seigneur avait dit qu'un jour, il va parler à son peuple en utilisant les langues étrangères. Et c'est ce qui va se passer dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui, très chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui êtes à l'écoute, dans Actes 2, il est écrit ceci à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Verset 9, Pathès, Médès, Mède et Lamite, ceux qui habitent la maison. Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Dans cette portion de Saint-Écriture, mesdames et messieurs, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit étant descendu sur les disciples du Seigneur qui étaient réunis, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Et comme c'était un grand jour de fête, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venant, comme nous l'avons lu, des différents pays qu'il y a sous le ciel à Jérusalem pour la fête. Et ils vont entendre les disciples du Seigneur qui étaient en train de parler en les langues qu'ils comprenaient très bien. Et ici, c'est l'accomplissement de la prophétie faite dans Ésaïe chapitre 28, versets 11 et 12. Ici, là, ce n'est pas l'accomplissement de l'évangile de Marc, chapitre 16. Oui, il faut savoir distinguer les deux prophéties et les deux promesses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je reviens, je parle tout doucement. Ce qui s'est passé ce jour, c'était plutôt une prophétie d'Ésaïe, chapitre 28, où Dieu avait dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Donc Dieu avait promis qu'un jour il va parler à son peuple par des langues étrangères. Et c'est ça qui s'est réalisé ici dans Acte 2. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Marc chapitre 16, à savoir que ceux qui auront cru en lui chasseront les démons et parleront des nouvelles langues. Maintenant, quant à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait promis, que ceux qui vont croire en lui vont parler des nouvelles langues, ces langues ne sont pas des langues qui s'adressent aux hommes. Et c'est ce que nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 qui dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. La Bible dit clairement ici que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 que la personne qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qui dit des mystères. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, les gens ont compris ce que les apôtres disaient en d'autres langues. C'est parce que ce n'est pas la même promesse, c'est différent. Parce que la parole de Dieu ne peut pas du tout se contredire. Si la Bible dit que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes parce que personne ne le comprend, c'est à Dieu qu'il s'adresse, et que le jour de la Pentecôte, les gens ont clairement écouté ce que les disciples du Seigneur disaient, Dieu ne peut pas se contredire, ni sa parole non plus. C'est juste que c'est deux promesses bien différentes. Et c'est très très important de souligner cela afin qu'il n'y ait plus de confusion. Donc le parler en langue que le Seigneur Jésus-Christ a promis à ses disciples, ce parler en langue ne s'adresse pas aux hommes. La Bible dit clairement, personne ne le comprend quand quelqu'un se met à le parler. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et toujours dans 1 Corinthiens 14, parce que cette langue n'étant pas destinée aux hommes, voici ce qui est écrit toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. La Bible nous dit que dans l'Église, si une personne parle en langue, personne n'est édifié. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait un interprète. Ça sous-entend que cette langue ne s'adresse pas aux hommes, ou bien ce n'est pas une langue qui est connue des hommes. Sinon, pourquoi Dieu demande qu'il faut à tout prix qu'il y ait un interprète lorsqu'on parle en langue? Et toujours dans 1 Corinthiens 14, le verset 13, va dire, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Voilà. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Donc, cette langue promise par le Seigneur, ne s'adressant pas aux hommes, si cette langue devait être utilisée à l'église, la Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait un interprète à tout prix, ou bien que la personne qui veut exercer ce don prie et demande à Dieu de lui donner le don d'interpréter. Sinon, ce don n'a pas sa place à l'église. Et au verset 27 et 28, toujours de 1 Corinthiens chapitre 14, il est écrit ceci: en est-il qui parle en langue? D'abord au verset 26, que faites donc frère lorsque vous vous assemblez? Verset 27 maintenant, en est-il qui parle en langue? Que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Nous voyons clairement qu'en ce qui concerne le parler en langue en l'église, le Seigneur insiste à plusieurs reprises que si ces dons veulent être utilisés à l'église, il faut à tout prix qu'il y ait interprétation. Sinon, qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu, ou bien que l'on parle dans son cœur. Ça veut dire clairement que ce don promis par le Seigneur Jésus, qui est différent de ce que Dieu avait promis dans Ésaïe 28, ce don ne s'adresse pas au premier abord aux hommes. Et si Dieu veut utiliser ce don pour parler aux hommes, il faudrait qu'il y ait à tout prix un interprète, ou bien que la personne qui exerce ce don puisse pouvoir l'interpréter. Donc, mesdames et messieurs, nous essayons de répondre tout simplement aux préoccupations des multitudes, parce que c'est toujours important de creuser certains sujets qui créent la confusion dans le cœur des uns et des autres et d'essayer de trouver ce qui convient réellement selon la révélation du Seigneur. Et toujours dans 1 Corinthiens 14, la Bible va nous dire que le parler en langue, c'est un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Comment est-ce que le parler en langue peut être un signe pour les non-croyants? Nous pouvons aller dans Actes des Apôtres. Le non-croyant dont il est question ici n'est pas forcément quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Oui, le non-croyant dont il est question ici n'est pas forcément quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 44, Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 44, il est écrit ceci. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Nous voyons ici l'apôtre Pierre qui va se retrouver chez Corneille, qui était un non-juif, qui était un romain, un non-juif. Parce que dans la Bible, les non-juifs étaient tout simplement considérés comme des païens. Et il doit d'ailleurs hésiter avant d'aller, parce que la loi juive de leur tradition les interdisait d'aller chez un non-juif n'importe comment. Et il va falloir que Dieu lui-même en personne vienne par une vision le convaincre d'aller chez Corneille. Parce que selon leur manière de comprendre et de voir les choses, il n'y avait que eux, les Juifs, qui avaient droit aux grâces de Dieu, au salut de Dieu et surtout au Saint-Esprit du Dieu vivant. Selon eux, les non-Juifs n'avaient pas part au salut et encore moins au don de Dieu, particulièrement son Esprit Saint. Lorsque l'apôtre Pierre va accepter, ayant été convaincu par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu, d'aller prêcher l'Évangile à Corneille, la Bible nous dit que pendant qu'il serait en train de s'entretenir avec Corneille et toute sa famille et tous ceux qui étaient assemblés, il n'avait même pas du tout fini de prêcher. Le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et sur tous ceux qui étaient avec lui. Et ils vont commencer à parler en d'autres langues. Et c'est à partir de là que l'apôtre Pierre va maintenant se rendre compte qu'en réalité, Dieu a aussi accepté les non-juifs dans son royaume en leur donnant son pardon et son Saint-Esprit. À ce niveau, on peut dire que les langues ont été un signe pour convaincre Pierre, qui était un croyant, mais qui ne croyait pas que Dieu pouvait donner son Saint-Esprit aux non-juifs. D'ailleurs, après cela, il va avoir des problèmes avec les Juifs. C'est ce que le chapitre 11 va nous dire, où nous pouvons lire. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Verset 4, Pierre se mit à les exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé Et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Verset 8, mais j'ai dit « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Verset 9, et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Verset 10, cela arriva jusqu'à trois fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Verset 11, et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Verset 12, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu, en permettant qu'il y ait ce signe extérieur, le parler en langue, c'était pour convaincre les Juifs qui ne croyaient pas du tout que les non-Juifs pouvaient aussi avoir le salut et surtout l'Esprit de Dieu. Voilà, si on tient compte de cette portion de Sainte Écriture, on peut comprendre pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 22, que les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le non-croyant ici, c'était les Juifs qui ne croyaient pas que Dieu pouvait aussi accepter dans son royaume les non-Juifs, surtout les donner ses dons spirituels, y compris le Saint-Esprit. Et les langues, c'était un signe extérieur pour les convaincre facilement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Lorsque Pierre va voir ce signe extérieur se manifester, il va dire, ça ne sert plus à rien de s'opposer à Dieu. D'ailleurs, ils méritent d'être même baptisés, puisqu'ils ont déjà reçu même le Saint-Esprit et surtout les dons spirituels de Dieu. Nous sommes là en train d'essayer de répondre aux questions, aux préoccupations des multitudes. Et nous sommes en train de nous intéresser au parler en langue. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue selon les Saintes Écritures? Et mesdames et messieurs, vous écoutez l'air de la vérité. Si vous venez de vous connecter, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de nous intéresser au parler en langue. Restez tout simplement à l'écoute. Qu'est-ce que le parler en langue à la lumière des Écritures? Et nous sommes en train de nous intéresser à ce parler en langue promis par le Seigneur Jésus qui est différent de ce que le Seigneur avait promis dans Ésaïe chapitre 28, les versets 11 et 12. Et 1 Corinthiens 14 nous dit clairement ceci au verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, ce parler en langue promis par le Seigneur ne s'adresse pas aux hommes. La Bible nous dit, personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et à quoi donc sert se parler en langue? Étant donné que, de premier abord, il ne s'adresse pas aux hommes. À quoi donc ça sert? Si nous continuons notre lecture, nous sommes dans 1 Corinthiens 14 qui parle suffisamment du parler en langue. Nous sommes en train de répondre cette fois-ci à quoi sert le parler en langue. Verset 3 de 1 Corinthiens 14. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console, les exhorte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'Église. La Bible nous dit que la personne qui parle en langue s'édifie elle-même. Donc celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà déjà à quoi peut servir le parler en langue. La personne qui a reçu ce don s'édifie. Et au verset 14, la Bible nous dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais non mon intelligence. Mon intelligence demeure stérile. Car si je prie en langue, ça sous-entend qu'on peut prier en langue. Donc dans les langues, on peut prier. Et c'est l'Esprit de Dieu en ce moment-là qui contrôle tout ce qui se passe. Parce que la Bible nous dit clairement, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc lorsqu'on prie en langue, l'intelligence n'interfère pas parce que c'est l'esprit qui est en prière. Verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, de la même manière que l'on prie avec l'intelligence, c'est-à-dire en formulant des phrases et des mots que l'on comprend, on peut aussi prier par l'esprit, c'est-à-dire par les langues. Cette fois-là, ce n'est pas en formulant les phrases et des mots que l'on comprend, c'est tout simplement sous la conduite du Saint-Esprit que l'on prie. Et le verset continue, le verset 15 continue en disant, « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, de la même manière que nous pouvons chanter par l'intelligence, c'est-à-dire en formulant des mots et des phrases, la Bible nous dit aussi qu'on peut chanter par l'esprit dans le parler en langue. Là, c'est le domaine de l'esprit de Dieu. La sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme n'a absolument rien à faire à ce niveau. Donc, le parler en langue, la personne qui exerce ce don s'édifie, peut prier, peut chanter, peut même rendre grâce. C'est ce qui est écrit au verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voilà, donc on peut aussi rendre grâce au Seigneur par les langues. Et la Bible confirme une fois de plus que même si on peut rendre d'excellentes actions de grâce au Seigneur par les langues, les gens qui sont tout autour ne bénéficient pas de cela. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas dire amen, parce qu'ils ne savent même pas ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'on ne peut dire amen que lorsqu'on a compris ce que vous avez dit. Donc une fois de plus, les langues, ça ne s'adresse pas aux hommes, et c'est à Dieu. On peut aussi rendre grâce par le parler en langue. Donc voilà en bref, mesdames et messieurs, à la lumière des Écritures, à quoi peut servir ce don spirituel qui est le parler en langue. Maintenant, nous sommes en train d'évoluer. Comment utiliser ce don dans l'Église? Et c'est à ce niveau que les problèmes vont vraiment abonder. Parce que beaucoup utilisent très mal ce don spirituel dans l'Église. Nous avons lu à plusieurs reprises que la Bible insiste sur le fait que s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise. Donc à l'Église, la Bible dit clairement au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Oui. Et le verset 26, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 toujours, va dire, que fait donc frère lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. La Bible dit ici que lorsqu'on se retrouve déjà à l'église, il faut qu'il y ait maximum trois personnes qui parlent en langue et chacun à son tour. Et surtout, s'il y a les interprètes. Si on ne peut pas interpréter, la Bible dit qu'il faut qu'on se taise. Puisque tout ce qu'on dit en langue, personne n'écoute, personne n'est édifié. Malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, beaucoup se mettent à parler en langue parfois. C'est le pasteur qui donne même le coup d'envoi en entraînant les fidèles avec lui dans un brouhaha où personne ne comprend rien. Et à la limite, non seulement c'est le désordre, la Bible ira jusqu'à dire que dans ce contexte-là, les gens vont vous considérer comme des fous, vous qui utilisez le don de parler en langue de cette façon. Oui, c'est ce qui est écrit au verset 23 de 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Voilà, la Bible dit bien que si quelqu'un entre dans une église et que des multitudes se mettent à parler en langue, ils vont être considérés comme des fous. Donc, l'église du Seigneur n'est pas une assemblée de fous. C'est pour cette raison que la Bible, à l'assemblée, privilégie la prophétie qui édifie, exhorte et console. Parce que là, on comprend ce qu'on dit. Et les autres qui comprennent sont édifiés. Donc, vous tous qui êtes à l'écoute, qui êtes pasteurs, qui êtes chrétiens, si dans votre assemblée, dans votre église, vous utilisez ce don spirituel n'importe comment, vous parlez tous en langue, et surtout, sans que personne n'interprète, même au-delà même de trois personnes sans interprète, la Bible dit que c'est du désordre, et les gens, en vous voyant, vont tout simplement vous considérer comme des fous. Et c'est pour cette raison que la Bible va nous dire clairement que Dieu, par contre, lui, ce n'est pas un Dieu de désordre. Oui, Dieu connaît le savoir-vivre et l'Esprit de Dieu, bien entendu. Donc là où il y a déjà désordre et manque de savoir-vivre, franchement, c'est le désordre et il n'y a point Dieu. Vous êtes en train d'écouter l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous sommes en train de nous intéresser au parler en langue et surtout comment utiliser le parler en langue dans l'Église. L'apôtre Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Amen. Nous voyons l'apôtre Paul ici qui est en train d'enseigner sous l'inspiration du Saint-Esprit que lui-même, il parlait en langue même plus que tous les Corinthiens. Mais lorsqu'il se retrouve à l'assemblée, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence, c'est-à-dire de manière à être compris, que 10 000 paroles en langue. Puisque en parlant en langue, personne ne le comprendra. Malheureusement, parfois, beaucoup utilisent cela ou parlent ces langues dans les églises comme si c'était pour montrer qu'ils sont très spirituels ou bien pour faire la concurrence, alors que l'apôtre Paul dit que lorsqu'il se retrouve à l'assemblée, il n'a pas besoin de parler en langue. Il est là pour instruire les gens et non pour se faire voir. Mesdames et messieurs, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Voici ce que le verset 40 va dire, ou bien le verset 39 à 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties. N'empêchez pas de parler en langue. Mais, verset 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. La Bible nous dit que tout doit se faire avec bienséance et ordre parce que Dieu connaît le savoir-vivre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, cessez. Vous qui avez l'habitude de parler en désordre ces langues dans vos assemblées, cessez, arrêtez cela, pendant qu'il est encore temps, n'effrayez pas les simples auditeurs, n'effrayez pas les jeunes croyants, n'effrayez pas ceux qui vous rendent visite en parlant ces langues que personne ne comprend et que personne n'interprète. S'il faut parler, deux ou trois ou plus, et surtout s'il y a interprétation. S'il n'y a pas interprétation, la Bible est claire, formelle, que l'on se taise, que l'on parle à soi-même et à Dieu, c'est-à-dire dans son ventre, dans son cœur et à Dieu. Nous sommes en train de nous intéresser, mesdames et messieurs, au parler en langue. Nous allons également, à la lumière sainte des Écritures, voir ce que n'est pas le parler en langue. Oui, ce que n'est pas le parler en langue. Beaucoup croient que le parler en langue, c'est ça qui montre que on est baptisé du Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas en parlant en langue que l'on prouve qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit le jour même que l'on a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, que l'on parle en langue ou pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13, il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Dans cette portion des Saintes Écritures, la Bible nous dit que les chrétiens ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ. Ce n'était pas pour parler en langue. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'était pas pour parler en langue. Dieu a baptisé tous les chrétiens du Saint-Esprit pour former le corps de Christ. Parce qu'ils ont reçu le même esprit, le Saint-Esprit, et avec ce Saint-Esprit, ils forment un corps qui est le corps de Christ. C'est vrai que nous allons voir dans Actes des Apôtres beaucoup de personnes qui vont parler en langue après avoir reçu directement le Saint-Esprit. Mais nous devions savoir que c'est dans les Épîtres que la Bible éclaircit beaucoup de choses et essaie de mettre de l'ordre pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Si nous prenons par exemple le cas que nous avons lu tout à l'heure, le cas de Corneille, qui en même temps qu'il a reçu le Saint-Esprit a parlé en langue, nous avons vu que Dieu a permis cela pour pouvoir convaincre Pierre et les autres Juifs qui ne croyaient pas que Dieu pouvait donner aussi son Saint-Esprit aux non-juifs. Donc c'était un signe et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et lorsqu'on lit maintenant les Épîtres, on se rend compte qu'en réalité, le parler en langue, c'est tout simplement un don spirituel comme tous les autres. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 14 ou bien 1 Corinthiens chapitre 12 pour être plus précis. Écoutons ce qui est écrit à partir du verset 29 à 30. Il est écrit ceci. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse, c'est non. Tous ne sont pas apôtres, prophètes, tous n'ont pas le don des guérisons, des miracles. De la même manière, tous n'ont pas le don des langues. Donc, le parler en langue, c'est tout simplement un don spirituel comme tous les autres. Il est vrai que la Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, l'apôtre Paul disait qu'il désire que tous les chrétiens parlent en langue. Mais, le parler en langue, c'est avant tout un don spirituel comme tous les autres dons. C'est même pas ce don qui montre que on est baptisé dans le Saint-Esprit. On est baptisé dans le Saint-Esprit le jour qu'on a accepté le Seigneur Jésus, parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu ce même jour. Et c'est ça, le baptême du Saint-Esprit, selon la Bible, pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 12 va également nous dire Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui distribue les dons spirituels comme il le veut. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu les dons spirituels que ça veut dire qu'il est plus chrétien que l'autre. Pas du tout. Pas du tout. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne ce don comme il le veut. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'aide de la vérité si vous venez de vous connecter. Et nous sommes en train de nous intéresser à cette question. Qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Et le parler en langue dont il est question ici, que le Seigneur Jésus-Christ a promis, ne s'apprend pas. Oui, ça ne s'apprend pas. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4, il est écrit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc c'est l'Esprit qui donne aux gens de s'exprimer, de parler en langue. Et nous avons vu au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 12 que c'est également l'Esprit de Dieu qui donne les dons spirituels. Donc ça ne s'apprend pas. Malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup d'assemblées, on apprend aux gens à parler en d'autres langues. Non. Si vous parlez des langues qui ont été apprises, sachez que ces langues ne viennent pas de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne aux chrétiens de parler en langue. Donc toutes ces langues que vous avez apprises, d'une manière ou de l'autre, vous deviez renoncer à cela. Et prier que le Seigneur vous délivre et vous donne de parler réellement les langues qui sont uniquement du Saint-Esprit, qui ont été données par le Saint-Esprit. Bien sûr que le diable étant le champion de la contrefaçon, il y a également les fausses langues. Il y a les marabouts, il y a les charlatans qui parlent aussi des langues que personne ne comprend. Dans beaucoup de religions, les gens aussi parlent des langues que personne ne comprend. Tout cela, c'est tout simplement la contrefaçon du parler en langue promis par le Seigneur. Puisque le diable est partout et il contrefait tout. Donc, le diable peut aussi amener les hommes à parler des langues qui n'ont rien à voir avec ces langues données par le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas sûr que les langues que vous parlez viennent du Saint-Esprit, repentez-vous et priez pour être délivré et laissez que le Saint-Esprit vous donne de parler les langues qui viennent directement du ciel et de l'Esprit de Dieu. Et est-ce que les langues ont cessé? Est-ce que les langues ont cessé? J'ai entendu un jour certaines personnes dire que les langues en réalité ne doivent plus exister. En se référant à 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8 qui dit ceci: l'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. En se référant à ce verset, beaucoup ont dit que les langues ont cessé. C'est faux et faux. Ce n'est pas parce qu'il y a la contrefaçon des dons spirituels, ce n'est pas parce que les gens utilisent mal les dons spirituels que ça veut dire que ces dons ont cessé ou bien qu'on ne doit plus accorder d'importance à ce don. C'est une erreur très très grave. Ceux qui disent que les langues ont cessé ne remarquent pas qu'il est aussi écrit que la connaissance sera abolie. Si les langues ont cessé, c'est que la connaissance aussi a cessé. Et il est clairement établi pour tout le monde que la connaissance ne cessera jamais jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité avec le Christ. Alors, aussi longtemps que la connaissance existe, aussi longtemps que nous aurons besoin de la connaissance, nous aurons aussi besoin de ces dons spirituels, y compris les langues. La seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir les Saintes Écritures, la Bible, chercher ce qui est réellement écrit et chercher à exercer ces dons selon Dieu, afin que cela serve à glorifier Dieu et non plutôt à créer le désordre ou la confusion. confusion. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, d'un moment à l'autre, nous allons nous séparer. Restez tout simplement à l'écoute. À l'écoute de l'air de la vérité, compte tenu du temps, d'un moment à l'autre, nous allons nous séparer. Nous étions en train de nous intéresser à cette question, qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Pour résumer, il y a eu des promesses de parler en langue dans les Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, Dieu avait promis qu'il devait s'adresser à son peuple par des langues étrangères. Et c'est cette prophétie qui s'est accomplie dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et il ne faut pas confondre cette prophétie avec ce que le Seigneur Jésus-Christ avait promis dans Marc, chapitre 16, le verset 17. Ce que le Seigneur Jésus-Christ avait promis, cette langue ne s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu, parce que personne ne comprend ces langues. C'est à Dieu qu'on dit des mystères, ce que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2. Et à l'Église, la Bible est claire, formelle, le parler en langue. S'il n'y a point d'interprète, il faut se taire. Et s'il y a même d'interprète, il faut au plus deux ou trois. Tant qu'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire et parler à soi-même et à Dieu. Le parler en langue, si Dieu a donné, c'est pour s'édifier. Oui, on peut s'édifier soi-même en parlant en langue, on peut chanter, on peut prier, on peut rendre grâce à Dieu. Et la Bible dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, vous tous qui êtes enfants de Dieu, sachez que la Bible désire que vous parliez en langue. Donc, si vous ne parlez pas encore en langue, priez le Seigneur afin qu'il vous accorde ce don spirituel. Mais parler en langue ne veut pas dire qu'on est plus spirituel que les autres, qu'on est déjà arrivé. Parce qu'on va utiliser même cela dans l'ordre avec bienséance. Parce que c'est tout simplement un don spirituel comme les autres. Et bien entendu, on n'apprend pas à parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui donne. Et le diable aussi étant le champion de la contrefaçon, peut amener les gens, les sorciers, les marabouts et autres à parler des langues qui ne sont que des contrefaçons de ce que Dieu donne. Et il faut faire attention à ces niveaux. Et les langues n'ont pas cessé, contrairement à ce que certaines organisations disent, parce qu'ils ne croient plus aux miracles ni aux dons spirituels. Même si les hommes utilisent mal les dons spirituels, n'empêche, ce n'est pas une raison pour piétiner les dons spirituels ou pour ne plus s'intéresser ou s'ouvrir pour pouvoir recevoir ces dons et les manifester dans l'ordre pour glorifier le Seigneur. Mesdames et messieurs, vous étiez tout simplement à l'écoute de l'heure de la vérité. Je tiens comme ça à bénir d'une façon spéciale, particulièrement mon bien-aimé frère dans le Seigneur, le frère Yannick, qui n'était pas avec nous, certainement parce qu'il n'a pas pu trouver moyen pour se déplacer. Pour vous servir, je suis, je reste, je demeure tout simplement votre très humble serviteur. Soyez bénis, vous tous, et surtout, gardez la foi et ne doutez pas que Dieu vous aime. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40 77 61 93 77 ou aussi au
96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NGENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, jamais. Ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Comment te dis-je que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis-je que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.